Make it, yeah, it is. Through the jungle in an all black fitted hat, low incognito living. Introvert, but she ain't timid. My art will be timeless. I don't do limits. No. Be very specific when you talk on who the best is. How can I address this? Basically, the rest is almost like to me what a stain to a vest is. You ain't dropped nothing in my eyes. I'm impressed with. Please don't be offended. But I'm not in the business of pretending. I've got lines if you wanna get renting. Or find the agony on and get venting. Stop flooding my mentions with bullshit. Talking on Sims like she's someone you went school with. Awkward. From day been the cool kid. Rap stars, hope and faith I'm restoring. Don't ask my opinion on shit, cause to make you feel good about yourself is exhausting. I've got bangers out in the world soaring. And I've got bangers.
Chase you out of earth.
Sur Radio G, tout de suite, c'est l'heure de retrouver l'équipe de Génération Sport. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette avant-dernière émission de Génération Sport de l'année 2022. Cela fait désormais 48 heures que nous ne sommes plus champions du monde de football. C'est très triste, mais c'est la loi du sport et le sport avance. Ce week-end n'a pas totalement été perdu pour tout le monde, puisque nous avons quelqu'un autour de la table qui a réalisé une vraie performance avec son club de l'AS Savrier Basket. Faustin est avec nous. Salut Faustin.
Salut Alex.
Il s'est passé quelque chose ce week-end. Est-ce que tu peux un peu nous raconter ?
Eh bien ouais, tout à fait. Donc, je l'avais dit la semaine dernière, j'avais un tournoi pour me qualifier en région, en U17. Et ben, moi et mon équipe, on a gagné ce tournoi. Donc on est qualifié en région.
Incroyable.
Pour la deuxième phase.
Et voilà. Donc voilà, ça va être une saison qui va être pleine de rebondissements. Tu penses que vous avez le niveau pour la région ?
Oh oui, totalement.
Totalement.
Je pense que
ça va le faire.
Très bien se débrouiller en R2.
Donc voilà, ça va être génial pour toi sur cette fin de saison. Cédric est également avec nous. Salut Cédric.
Salut tout le monde.
La forme ?
Ouais, écoute.
Un bon week-end, même si bon,
oui, non, mais
pas été parfait.
Il y a tellement de choses à dire sur cette finale qui, voilà, qui restera quand même historique.
Oui, dans tous les cas.
Pour le scénario.
Bien sûr. Justement, dans cette émission, ça va être une émission talk dans laquelle on va revenir sur l'actualité sportive locale, mais aussi sur la finale de la Coupe du Monde, comme on a dit, qui n'aura pas déçu dans son scénario, au contraire parfois de l'équipe de France. On reviendra en long, en large et en travers sur cette finale. On fera aussi un petit bilan du tournoi dans sa globalité, dire ce que vous en avez pensé. Mais avant ça, donc, on va commencer sans plus tarder. On va rentrer dans le vif du sujet avec les actualités locales. La grosse news de la semaine, c'est le départ de l'entraîneur canadien des Ducs d'Angers, Mario Richer. Dans un communiqué publié jeudi matin, le club de hockey sur glace angevin a annoncé que leur coach, qui a succédé à Ethan Goldberg à l'été dernier, a été mis à pied après certains points de divergence mis en évidence entre Richer et son équipe. C'est ce que a donc déclaré le club des Ducs d'Angers. Le Canadien, ancien entraîneur des Gothiques d'Amiens, part d'Anjou après seulement 5 mois d'exercice et une qualification pour la finale de Continental Cup, pardon, et une autre qualification aussi pour une demi-finale de Coupe de France. Les Ducs vont devoir se remobiliser rapidement avec des grosses échéances qui arrivent. Mais avant ça, la reprise de la trêve internationale se matérialise ce soir par un match de Ligue Magnus contre Anglais. C'est dans une petite dizaine de minutes. Cédric, donc, on va revenir donc sur ce départ de Mario Richer. Alors, Richer,
on ne sait pas trop au final si c'est un départ ou pas pour l'instant. C'est une mise à pied.
C'est une mise à pied.
Il n'y a pas eu plus d'infos pour l'instant.
Ouais. Mais
après, on sait que généralement, le mot mise à pied derrière, voilà, c'est.
Il y a quand même. C'est 99%. C'est, voilà, c'est... Au revoir. Non, ouais, du coup, c'est quand même une news
surtout
inattendue.
Surprenant après le fait
timing,
de s'être qualifié, juste après d'avoir eu la joie de recevoir la finale.
Enfin,
il y a beaucoup de choses qu'on fait. Ouais, que c'est. C'est vraiment... Même cet été, déjà, ça avait été surprenant,
le
départ.
Ouais. Après, peut-être que c'est... Je crois que c'était lui qui est parti de lui-même.
Oui, voilà, puisqu'il a eu une meilleure proposition.
Ouais, voilà.
Mais
ça, c'est ce qu'on connaît.
Bon, c'était quand même un peu inattendu.
Oui, bien sûr.
Voilà. Là, on ne peut même pas dire que c'est un problème de résultat.
Bah non,
c'est, apparemment, il y a vraiment quelque chose qui se passerait dans les vestiaires entre les joueurs et l'entraîneur. Quoi ? Je ne sais pas, du coup, parce que quand on les voit jouer... en tout cas, ça joue.
Ça gagne.
Enfin, c'est. Non, c'est,
ouais, non, c'est
très, très spécial. Donc,
Mais donc voilà, c'est purement et simplement disciplinaire, on va dire. C'est-à-dire que c'est du relationnel, quoi.
Apparemment.
Oui, voilà, c'est selon
les Ducs. Voilà, on n'a pas trop d'informations. Et je pense pas que ça va fuiter.
Pour l'instant, il n'y a pas eu de d'article ou de rumeur, en tout cas, la dernière fois que j'ai checké, sur un potentiel remplaçant de Mario Richer.
Je pense qu'ils vont peut-être finir la saison avec l'adjoint. Qui est au club depuis des années aussi.
Et qui est en plus adjoint en équipe de France.
Voilà,
également.
Donc,
pourquoi pas, effectivement. Est-ce que ça peut être, tu penses, un frein, un problème, un vrai problème pour la suite de la saison, sachant qu'il y a plein de défis qui s'offrent au Duc?
C'est délicat au sens où si c'était réellement un problème relationnel entre l'équipe et le coach, et là, j'ai envie de dire, ça va logiquement améliorer les choses.
Ouais.
Mais après, voilà, tant qu'on ne saura pas réellement les raisons, c'est un peu délicat de dire oui, ça va sûrement, dans tous les cas, ça aura un impact.
Ouais.
Et on va le voir dès ce soir, de toute façon.
Bien sûr.
Voilà, il va falloir se remettre en marche parce que, mine de rien, janvier arrive très vite.
Exactement. Et c'est 13, 14, 15,
ouais.
Donc c'est.
Il y aura aussi une demi-finale aussi qui va être compliquée.
De Coupe de France.
De Coupe de France, donc gros calendrier après. Pour janvier avec ça, tout ça, c'est pour ça.
Ouais.
Je pense qu'on pourra vraiment juger des effets mi-janvier, quoi, une fois que tout ça sera passé.
De toute façon, là, ça continue en décembre. Il n'y a pas de pause, je crois. J'ai regardé un petit peu, mais mémoire, je crois qu'il y a.
Il y a moins de matchs.
Il y a moins de matchs, mais je crois qu'il y a.
Il y en a au moins un, voire deux par semaine. Quoi.
Voilà. Donc voilà, évidemment, on suivra ça sur les résultats, sur la dynamique des Ducs dans les prochaines émissions. C'est vrai que ça va être intéressant. À noter également, j'en parlais la semaine dernière, que la billetterie a été ouverte notamment au grand public pour la finale de Continental Cup. Et donc voilà, pour ceux qui voudraient y aller et encourager les Ducs, ça a été ouvert. Je ne sais pas encore s'il reste des places.
Alors, moi, quand j'ai regardé samedi, il y avait toujours des places.
Ok. D'ailleurs, t'en as pris ou pas ?
Je suis en attente parce Attention. Que le problème, c'est la formule proposée qui n'est pas forcément adaptée, je trouve. C'est soit on prend match par match pour voir les Ducs, ouais. soit c'est le gros pack avec les 6 matchs.
Ah oui, donc. Oui.
Et bah, je trouve que ça peut être un frein. Les gens n'ont pas forcément le temps en plus d'aller voir 6 matchs.
Les Ducs sont tout le temps à 20h en tout cas.
Ouais, ils seront toujours en deuxième partie. Enfin,
exactement.
En main event de la journée.
Donc voilà, effectivement, pour la billetterie des Ducs, chers auditeurs, si vous voulez y aller, bah voilà, régalez-vous et puis encouragez nos Ducs. Faustin, on va passer aux actualités de basket avec, donc il n'y a pas que la SA Vrier, évidemment, qui a joué ce week-end. On va commencer par l'UFAB, si tu veux bien.
Très bien, et bah, l'UFAB, elles sont d'abord imposées en Eurocoupe pour leur premier match de la deuxième phase. Non, pas du tout. Elles sont imposées en Eurocoupe contre le Ragusa Dubrovnik, 90 à 42, donc un match assez tranquille, ce qui leur permet de se qualifier pour la deuxième phase de poule de cette Eurocoupe. Les Angevines se sont ensuite déplacées à Tarbes, où les deux équipes étaient à égalité au classement, et malheureusement, ce sont les Tarbes qui sont passés devant en gagnant 71 à 51. Les Angevines sont donc à la 9e position du classement. Leur prochain match aura lieu dans un certain temps, dû à une trêve hivernale, et se jouera donc le 4 janvier 2023, et sera en Eurocoupe, une fois de plus, pour le premier match de la deuxième phase, face à Madrid.
Ouais, Estudiantes Madrid, effectivement, pour les joueuses de l'UFAB. Au niveau de l'EAB, c'était moins bien sur la dernière semaine et je crois que ça s'est un peu amélioré.
Ouais, voilà, parce qu'ils n'avaient qu'un match à jouer cette semaine. Et ils l'ont donc joué à l'extérieur face à deux nains et les Orangevins se sont imposés tout en maîtrise dans ce match sur le score de 89 à 65. Ils jouent d'ailleurs en ce moment face à l'ASA, qui ici ne veut pas dire Association Sportive d'Avrier, mais bien Alliance Sport Alsace. Qui sont actuellement d'ailleurs derniers du classement de Pro B, tandis que les Angevins situent à la 6e position et le score du match est de 8 à 14 pour Angers à 3 minutes 34 de la fin du premier quart-temps.
Et puis il y a Cholet encore.
Ouais, Cholet qui, de la même manière que l'UFAB, se sont d'abord imposés en Coupe d'Europe pour le premier match de la deuxième phase de poule face aux Niners Chemnitz. Sur le score de 83 à 73. Ils ont ensuite reçu les Dijonais à la Meilleraie dans le but de récupérer leur 3e place de Betclic Elite. Et c'est chose faite, car les Choletais se sont imposés largement sur le score de 107 à 79 et se retrouvent même à égalité avec les Mets 92 à la 2e place du classement. Pour leur prochain match, les Choletais recevront demain les Roumains de Craiova pour une nouvelle rencontre de Coupe d'Europe.
Très bien, merci à toi pour ce petit point donc sur les résultats de basket en Maine-et-Loire. On va enchaîner avec le handball. Une semaine après leur première défaite de la saison contre Martigues, le SCO Handball recevait à la salle du Haras la réserve du PSG pour leur dernier match en 2022. L'entame de la partie n'est pas réussie pour les Angevins qui mettent une vingtaine de minutes avant de rentrer dans la rencontre. Mais après un 10-2 infligé aux Parisiens en fin de première mi-temps, les joueurs d'Issamtège repartent au vestiaire avec une avance confortable. En seconde période, les scoïstes vont creuser l'écart en réalisant un festival offensif qui se ponctuera par un 39e but en fin de partie. Parmi les individualités que l'on peut retenir sur la rencontre, le capitaine angevin Williams Manebar termine meilleur buteur avec 9 buts, tandis que du côté des jeunes du PSG, on retrouvait le fils de Daniel Narcisse, Noah Narcisse, avec 3 réalisations. Les leaders de N1 gardent donc la tête au chaud pour les fêtes et aborderont 2023 avec l'envie de concrétiser cette excellente phase aller par une remontée en Pro League. On va passer maintenant aux actualités internationales. Comme on vous l'a dit, on évoquera la finale de la Coupe du Monde en deuxième partie d'émission après la pause musicale. On va parler rugby maintenant avec la Champions Cup. À l'occasion de la deuxième journée de la compétition, les clubs français remettaient le couvert avec un peu moins de réussite qu'à la première journée. Dans le groupe A, les quatre équipes tricolores demeurent aux quatre dernières des 12 places de la poule avec encore quatre défaites en quatre matchs. Pour voir des victoires de formation du top 14 en Champions Cup, il faut aller du côté de la poule B avec les succès de Toulouse contre Sale et de La Rochelle contre Ulster. Les deux derniers champions d'Europe français sont d'ailleurs leaders de leur groupe. Faustin, je vais me retourner vers toi pour retourner sur le basket. Tu vas commencer par quoi tu vas commencer? Je NBA, pense, Euroleague, Betclic Elite.
Betclic Elite pour commencer. Bah, pourquoi pas sur l'Euroleague, puis pour finir de la NBA.
Ça marche.
Et du coup, en Betclic Elite, on a encore eu le droit à une belle surprise grâce à Victor Wembanyama, car pendant le derby opposant les Mets 92 au Paris Basketball, le célèbre rappeur américain Travis Scott s'est déplacé pour voir jouer le jeune prodige français en action. Et comme tout bon fan, il a pris sa photo à la fin du match avec Victor Wembanyama, le faisant penser qu'il mesure 1m30 quand on le met à côté de Victor Wembanyama.
Ah oui,
c'est,
quand même.
C'est assez impressionnant à chaque fois de voir des photos. Le match qui s'est soulevé sur une nouvelle victoire des Mets sur le score de 91-71. Et pour une fois, plus que Victor Wembanyama, c'est Hugo Besson qui a sorti son épingle du jeu en scorant 19 points et en captant 11 rebonds. A souligné aussi l'étonnante défaite des Monégasques, alors leader du championnat, face aux Portels qui étaient eux derniers du championnat et qui le restent aussi après leur victoire. Il reste deux matchs à jouer avant la trêve hivernale pour chaque équipe de Betclic Elite. Donc maintenant je vais passer à l'Euroleague où une fois de plus nos deux clubs français en jeu se sont imposés. Une fois de plus de justesse pour les deux. Le premier club à s'être imposé, c'est Monaco, qui a gagné 92-89 à domicile face à Berlin. Et le deuxième club, c'est Villeurbanne, qui s'est imposé 77-75 sur un magnifique buzzer de Elie Okobo. Je ne sais pas si vous avez vu les images.
Non, je n'ai pas vu.
Il reçoit la balle, il crosse un mec, le mec tombe, step back à 3 points au buzzer,
oh là
fin
là
du
là.
Match.
Magnifique.
C'est des actions dignes des plus grands joueurs. Donc les deux équipes qui sont toujours en lice, évidemment, pour continuer dans cette Euroleague. Maintenant, je vais passer à la NBA et je vais faire un petit tour du côté de nos Français, à commencer par Rudy Gobert, qui est sur le banc depuis 3 matchs pour cause de blessure. Le pivot réalise une saison assez moyenne, après avoir très bien commencé, et c'est tout à fait à l'image de son équipe qui déçoit un peu avec un bilan de 16 victoires pour 15 défaites. Maintenant, du côté de Los Angeles, c'est Nicolas Batum qui joue et remplit très bien le rôle qui lui a été confié par les Clippers, c'est-à-dire de la grosse défense et des trois points ouverts très régulièrement. C'est un lieutenant presque parfait pour ces gros joueurs à côté comme Kawhi Leonard ou Paul George. À New York maintenant, c'est assez compliqué pour Evan Fournier, qui était en grande difficulté après sa saison précédente, qui a été, pour elle, très bonne. Il a été écarté, malheureusement, par le coach pour trouver de meilleures solutions. Et depuis, il n'a vraiment pas beaucoup de minutes sur les parquets de NBA. Comme il l'a dit en interview d'ailleurs, il attend sagement que son coach le rappelle pour retrouver des minutes. Maintenant, du côté de Charlotte Hornets, c'est Théo Malédon, qui s'en sort pas trop mal malgré un temps de jeu limité du fait de la concurrence à son poste de meneur. Il a cependant su profiter de l'absence de LaMelo Ball puis de Terry Rozier pour gratter du temps de jeu qu'il a très bien utilisé. Pour finir, je vais aller du côté de Motor City, donc de Détroit, et on va parler d'un ancien Choletais. Cette fois-ci, ce n'est pas Rudy Gobert, mais bien Killian Hayes. Il avait lui aussi énormément de mal en début de saison, présentant le plus mauvais pourcentage au shoot de tous les meneurs de la Ligue. Mais son coach a continué de lui faire confiance Et ça a payé car depuis deux semaines, Kylian s'est réveillé et enchaîne les très bonnes performances avec une adresse retrouvée qui a été indispensable à Détroit dans plusieurs matchs, notamment dans la prolongation face aux Hornets où il a été décisif.
Très bien, bah merci pour ce point basket, que ce soit en France, en Europe et aux États-Unis. On va terminer par le handball avec quelques actus intéressantes. Tout d'abord, on en a parlé la semaine dernière, l'équipe de France masculine se prépare à disputer en janvier prochain le mondial en Suède et en Pologne. La liste des Bleus qui disputeront la compétition a d'ailleurs été dévoilée cette semaine après les forfaits de Desca, Pardin, Conan, Mine, Nguessant. Guillaume Gilles et son staff ont dû s'adapter avec notamment les sélections de Bolzinger, Desbonnet dans les buts, Gréby à l'aile gauche et puis sur la base arrière Briet, Vilmino ou encore Benoît Nkoukoud sur l'aile droite. Avant ce grand rendez-vous, les joueurs français disputaient une dernière journée de Ligue des Champions avec leurs clubs respectifs. Nantes s'est incliné contre l'Ogre, FC Barcelone, le FC Barcelone donc 37-33, tandis que le PSG a été surpris à domicile contre Magdebourg sur le même score. Les Parisiens ont d'ailleurs été battus une deuxième fois dans la semaine face au leader de l'équipe Movistar League, Montpellier, dans ce choc incontournable du championnat de France. Les Héraultais ont pris le meilleur sur les joueurs de la capitale en toute fin de match grâce au but de Kylian Vilmino qui a donc donné la victoire à son équipe à l'issue d'une partie plutôt dominée dans l'ensemble. Les Montpelliérains restent donc leaders du championnat avec 2 points d'avance sur leurs rivaux. Voilà pour ce qu'on pouvait dire sur l'actualité du sport en France, à Angers et dans le monde. En ce moment, c'est vrai que c'est la fin d'année, donc il n'y a pas forcément de grosses actus. Puis surtout, il y a eu la Coupe du Monde. On va justement parler de la Coupe du Monde juste après la pause musicale. Pause musicale qui est en lien avec évidemment cette compétition, puisque vous savez, les Français ont eu leur petit hymne dans cette compétition à chaque fois qu'ils gagnaient. Malheureusement, ils n'ont pas pu le chanter dimanche, mais voilà, on va s'écouter tout de suite Gala et son titre Freed from Desire.
He's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. Want more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. Want more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. Desire, mind and senses purified, freed from desire. Mind and senses purified, freed from desire. Mind and senses purified, freed from desire. Na 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 na
Freed From Desire sur Radio G. 20h24, toujours en direct avec Génération Sport. On est ensemble jusqu'à 21h pour parler de sport et notamment donc de la finale de la Coupe du Monde. On aurait aimé diffuser ce son évidemment dimanche aux alentours de 19h après une séance de tir au but gagnée, mais malheureusement ça ne s'est pas bien terminé pour nos Bleus. Avant de demander l'avis de nos chroniqueurs sur cette finale et puis sur la compétition en général, je vais vous faire donc un petit résumé de cette finale. La finale de la 22e Coupe du Monde de l'histoire a tenu toutes ses promesses. Le sommet entre l'Argentine et la France a eu son lot de rebondissements et d'émotions fortes, avec en ligne de mire la troisième étoile pour les deux sélections. Pourtant, une grande partie de la rencontre a été à sens unique avec une Argentine qui menait déjà 2-0 à la mi-temps face à une équipe de France complètement à la rue. Les Bleus ont été fantomatiques pendant 75 minutes jusqu'au doublé magnifique de Kylian Mbappé, doublé également inattendu, qui emmène donc les deux équipes en prolongation. Dans ces prolongations, les coéquipiers de Lionel Messi reprennent l'avantage grâce à leur septuple ballon d'or. Puis, l'impensable se recrée avec un pénalty obtenu et transformé par Mbappé. Les Bleus sont même à deux doigts du titre avec cette dernière occasion incroyable de Randal Kolo Muani, stoppé par Emiliano Martinez. Les Sud-Américains abordent donc la séance de tir au but en confiance, avec quand même plusieurs bons tireurs et un spécialiste de l'exercice dans les buts, en présence donc du portier d'Aston Villa. Et il y en a un autre qui n'est pas forcément spécialiste, c'est Hugo Lloris, qui encaissera d'ailleurs tous ses pénaltys. Et de l'autre côté, Coman et Tchouaméni échouent et laissent Montiel offrir la troisième Coupe du Monde de son histoire à son pays. Messieurs, ça a été une finale incroyable, éprouvante émotionnellement, qui se termine par de la pire des issues, on peut le dire. Mais j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est une défaite logique dans l'ensemble du match ?
Au vu du match, pendant 76 minutes, on va dire oui.
Ouais, quand même.
Mais juste sur le point de vue jeu, oui, de toute façon, ils ont largement dominé depuis le début. Hein,
Ouais.
Voilà, ça fait trois matchs quand même où on passe pas loin de la correctionnelle. Ah ouais, ouais, hein, même contre le Maroc, hein, ça a été compliqué, hein, cette demi-finale.
Ouais,
hein.
Oui.
On a été quand même bien dominé. Heureusement qu'on met ce but assez tôt, qui a mis un petit coup de marteau, mais on était loin d'aller jouer la petite finale. Donc, l'entame de match, ouais, elle n'a pas été surprenante. Mm. Voilà, après. Ça, apparemment, on le saura un peu plus ce soir, parce qu'il y a apparemment un reportage dans les coulisses.
Un documentaire, de TF1.
De la Coupe du Monde, un peu en mode, je pense, les yeux dans les bleus. Donc,
oui, voilà.
On verra réellement ce qui s'est dit, mais apparemment, il y a eu des mots forts pendant cette mi-temps.
J'ai envie de dire, parce que...
Ouais, ouais, ouais. Après...
je pense qu'on les aurait tous remontés, hein, les ouais, les joueurs, parce que franchement... C'était pas digne d'une finale de Coupe du Monde. Hein,
ce c'est ça. Puis, même les changements en soi, ils arrivent à le double premier changement.
À la 40e.
À la 40e. Je comprends pas. Enfin, je comprends. Ok, Giroud était un peu en dessous pendant cette finale-là, après tout ce qu'il a donné. Voilà. Mais pourquoi. Enfin, il restait quasiment 10 minutes, parce qu'on a eu quasiment 8 minutes de prolongation. Mais fais ton changement à la mi-temps dans ces cas-là. Enfin, je sais pas. C'était un peu surprenant. J'ai trouvé un peu tôt aussi. Ouais. Mine de rien, parce que au final, il faisait quand même les allers-retours. Voilà. Mbappé, qui a un peu plus défendu sur cette finale.
Oui, c'est vrai. Je me suis fait la réflexion devant ma télé un jour. À un moment donné, il revient. Je me dis, putain, c'est la première fois qu'il vient défendre.
Non, mais il faut quand même le souligner qu'il a quand même su adapter son jeu par rapport à ça. Et puis, bon, on parlera de l'arbitrage aussi, qui a peut-être été un peu...
Voilà. Un peu gentil
absent,
avec les arbitres.
Laxatif. Ça a été très bizarre, les décisions arbitrales, je trouvais.
C'est clairement en accord avec, je trouve, la politique qui est celle de la FIFA sur la compétition.
Ah bah oui.
Il y a eu, pour moi, deux enseignements sur l'arbitrage, en tout cas, deux consignes données aux arbitres. C'est de un, donc le fameux temps additionnel qui nous a un peu tous marqués avec ces temps additionnels à la rallonge et tout. Et surtout, j'ai l'impression que c'était laisser jouer. Les jaunes, c'est que quand c'est des grosses fautes, et les rouges, c'est quand vraiment c'est impardonnable, entre guillemets. Parce qu'on termine la compétition quand même de Coupe du Monde. Je ne sais pas combien de matchs il y a eu. Il y en a une cinquantaine, je ne sais pas. Mais il n'y a eu que deux cartons rouges dans la compétition.
Un, c'était parce que le joueur il a enlevé son maillot à la 96e.
Non, ouais, du coup, trois. Pardon, j'ai oublié Aboubakar, t'as raison. Mais t'as raison, oui, c'est ça. Il a fallu que juste il applique la règle qui est un peu pareil pour le gardien du Pays de Galles qui fait une sortie complètement folle. Et là, pareil, il est obligé de mettre rouge. Et en fait, c'est ça, j'ai l'impression que les arbitres, s'il n'y avait pas une cheville en moins.
C'était impressionnant sur ce match-là. Ouais,
et puis les Argentins, ça joue en leur faveur parce que c'est clairement leur style de jeu.
Ah, déjà, ils ont joué rude. Hein.
Enfin, leur style de jeu, leur façon d'appréhender les matchs.
Là, ils ont joué dans la rudesse d'entrée de jeu. Oui. Hein. Mais vous voyez, il n'y avait pas le ballon. Ça chopait, ça mettait au
exactement.
Sol.
Exactement. Par contre, avec le ballon, c'était correct.
Avec le ballon, par contre, oui, il y avait des échanges.
Mais le deuxième but est magnifique en vrai. Si on est français, on est très.
Ah oui, le but de Di Maria.
Oui, voilà, c'est une belle construction.
Magnifique. Hein.
Et de toute façon, voilà, ils se sont promenés. Après, voilà, la performance des Bleus n'a pas aidé. Toi, Faustin, qu'est-ce que t'as pensé de cette finale au niveau justement de cette. Peut-être la partie où l'équipe de France était menée.
Déjà, j'ai pas pu trop bien voir la première mi-temps parce que j'avais mon tournoi, donc j'ai fait le début.
Il y a des priorités.
Voilà, exactement. Mais de ce qu'on m'a dit et ce que j'ai quand même vu une petite partie, c'est ils ont pas joué quoi. C'était
non,
pas l'équipe
vraiment,
de France de 2018 avec de la fougue de la jeunesse où ça attaquait de partout. Même si le danger là pouvait venir de partout aussi à gauche ou à droite avec Dembélé et Mbappé, mais ils ont pas su en profiter quoi.
Ouais,
c'était vraiment frustrant.
Ouais, on était devant une télé impuissant et il y avait aucune intensité, que ce soit physiquement, techniquement, si c'était très pauvre, c'est-à-dire que ça ratait des passes. C'était assez choquant. Et puis donc il y a ce scénario de match complètement dingue. Mbappé le triplé, voilà, il montre que c'est l'un des meilleurs joueurs du monde et ce sera par peu de. Enfin voilà, c'est un futur prétendant.
Le mec de consolation pour lui.
Avec le soulier d'or, enfin le meilleur buteur, tu parles de ça?
Ouais.
C'est ça, le trophée de meilleur buteur. Justement, sur le scénario, j'imagine que c'était complètement dingue. Toi, du coup, t'as vu le match, j'imagine, au espèce de clubhouse à Avrillé?
Non.
Basket, non, t'es rentré?
Je suis allé en ville.
Ah, t'es allé en ville juste après?
Je suis allé dans un bar, ouais.
Ok, très bien. Cédric, tu l'as vu, toi, la finale?
Ah, moi, j'étais dans un bar.
Ok, très bien. Moi, j'étais chez des potes qui n'avaient pas forcément envie de sortir au bar. qui était un peu frileux, mais voilà, c'est surtout une finale de Coupe du Monde, ça se vit avec du monde.
Surtout pour un scénario comme ça.
Et justement, j'allais y venir. Est-ce que ça a été, alors justement parce qu'on a quand même un écart d'âge assez important, est-ce que ça a été votre plus belle finale de Coupe du Monde?
En termes d'émotion, de rebondissement, oui.
Ouais clairement,
parce que 98, bon, moi j'étais assez jeune. Donc pareil, tu le fêtes pas forcément. Puis moi, je me rappelle, j'étais en vacances, j'étais dans le camping. Voilà, je regardais ça dans ma caravane, quoi. Après la deuxième finale en Allemagne, je l'avais vu sur Bocuse à la salle des fêtes.
Ok.
Donc tu vois, il y avait une ambiance un peu différente.
Ouais, quand même.
Le deuxième titre, on l'a vu entre amis après une journée barbecue.
Ok.
Et là, tu vois, c'est la première finale qu'on faisait vraiment dans un bar.
Ok.
Tous ensemble, donc ça forcément c'est celle qui va marquer peut-être le plus pour un temps. Surtout que voilà, c'est passé à tellement peu de choses que.
M'en parle pas.
C'est frustrant, mais bon.
Faustin, toi, t'en as connu un peu moins. Quand
je veux dire que c'est de 2018, c'est la première vraie que j'ai connue.
Ok.
Et j'étais en Croatie pendant la finale.
Mais non.
C'est l'anecdote. J'étais en vacances en Croatie.
Ok.
Donc c'était totalement différent, quoi. Parce
t'as pas hurlé, tu vois.
On l'a pas fêté, quoi. On était dans notre hôtel, tranquille.
Ah ouais, j'étais français en Croatie à ce moment-là.
Ouais,
ça doit être pas mal. Mais oui, du coup, j'imagine quelle émotion.
Bah là, c'était
de toute façon,
fou.
Là, on est passé par plein d'émotions,
ouais,
quoi.
C'est
complètement fou. Et ouais. Mais c'est vrai que toi, du coup, t'en as connu du coup que deux.
Ouais.
2014,
j'en souviens.
2014, ouais, parce que t'avais 8 ans, je crois, c'est ça?
Ouais, du coup, hein. Ouais. Moi, j'avais 8 ans.
Parce que du coup, ça. Parce que moi, il y a un coup de vieux, c'est que du coup, en 2006, lui, naissait Cédric. Et nous, on regardait. Enfin, moi, c'est 2006, c'est mon premier souvenir de football parce que bah, j'ai 5 ans et demi. Et je me souviens, voilà, il y avait tout le monde chez mes grands-parents, etc. à l'époque. Mais voilà. Mais sinon, pour moi, donner mon avis, effectivement, je pense que c'est, en tout cas en termes de finale, ouais, c'est celle qui a donné le plus d'émotion, de haut, de bas, de on ne sait pas trop. Et puis, enfin, c'était complètement dingue. Je ne sais plus ce que je voulais dire, mais oui, par exemple, en 2018, donc on l'a vécu ici. Donc, en fait, donc avec Max et Yann, on l'a vécu ici en commentant le match. Donc, ça a quand même un patineux parce qu'on était à l'antenne, on n'avait pas non plus crié comme si on était au bar.
Là, je pense que si on l'avait commenté.
Je pense que
ce serait vraiment sorti naturellement.
Et là, justement, l'anti-saturation des micros aurait été une aubaine.
Ça aurait été un test, là, pour lui.
Ah, ça aurait été, voilà, on aurait testé les micros bien comme il faut. Parce qu'en 2021, quand j'ai crié, il y a des oreilles qui saignent encore. Mais bref, non, mais voilà, ouais, c'est vrai que c'était complètement fou. Après, par rapport à, peut-être à 2016, en termes d'émotions, enfin négatives, en termes de défaite, je sais pas vous, mais moi, par exemple, j'étais beaucoup plus déçu en 2016, parce que bon, après, il y avait un contexte, c'était chez nous, c'était le Portugal qui était beaucoup plus faible que nous à l'époque.
Ah, tu parles de la Coupe d'Europe.
Ouais. Oui, Coupe d'Europe, j'ai dit Coupe du Monde.
Non, c'est ce que tu as juste dit, 2016.
Ouais. Oui, 2016, donc oui, je parlais de l'Euro 2016.
L'Euro 2016, oui, cette finale-là, je l'ai vue dans un bar aussi.
C'est un crève-cœur.
La victoire, en 2016, elle est moins méritée sur la finale.
Et en plus, il y a 1-0 seulement.
Ouais,
donc en fait, tu es dans une espèce de ligne plate d'émotion tout le match. Puis tu descends quand il y a un but d'EDR, et puis quand il y a le coup de sifflet final, tu descends encore plus. Quoi. Ouais. Alors que là, t'es très bas, puis tu remontes avec un doublé d'Mbappé, qui vient nulle part. Puis après, tu redescends avec le but de Messi, et Mbappé remet le pénalty, ouais. Puis les tirs au but. Bon, après, c'est vrai que les tirs au but, c'est clairement un exercice qui ne nous réussit pas, nous, Français. On se souvient de 2006, on se souvient de l'année dernière, 2021. Moi, personnellement, j'y croyais pas quand on allait au pénalty, parce que voilà, Martinez, c'est un monstre au tir au but. Lloris, je sentais capable peut-être de sortir un, mais pas deux ou trois.
Ça va être compliqué.
Très compliqué. Vous, pareil, vous aviez le même sentiment au moment où on arrivait au tir au but, c'était mort.
Là, déjà, on n'avait pas nos tireurs habituels.
Oui, c'est ça aussi que je voulais dire.
Parce que ce que je peux reprocher à Deschamps, c'est que là-dessus, en termes de management, j'ai pas compris pourquoi.
T'as raison.
Tu vois, on parlait de Giroud qui sort tôt dans le match.
Dembélé aussi.
Dembélé aussi, bon. Parlons, pareil. C'était bien claqué, donc ok. Mais Griezmann, moi je ne l'ai pas trouvé si mauvais que ça.
Ah ouais. Moi je ne l'ai pas trouvé bon.
Quand il y a eu que tout le monde est reparti, là, j'ai trouvé qu'il faisait le taf, tu vois. C'est un mec qui était.
C'était un peu cramé aussi. Hein.
Ouais, mais c'est ça. Mais ça peut être ça. Après, les changements qu'il a fait, heureusement, ça a amené de la.
Il a quand même jeunesse, bon.
C'est la jeunesse qui est venue.
Kamavinga, surprenant.
Kamavinga qui a fait. Ouais, ouais.
Surprenant, mais très
mais
bon.
Mais même Thuram aussi, qui a fait.
Colomoigny aussi.
Tous ces mecs-là, là, qui débarquent en équipe de France, qu'on l'envie, ils ont été le relais quoi, pour ça. Et après, c'est pour ça que c'est un peu dur de leur en vouloir de rater leur pénalty derrière, parce que c'est leur première expérience.
Par exemple, après, bon, je pense qu'on n'avait plus d'attaquants sur le banc, mais par exemple, sur la fin de la prolongation, il y a un changement pour l'Argentine. C'est donc Dybala, qui est donc un attaquant qu'on connaît bien, qui remplace, je crois, un défenseur. Et techniquement, c'est clairement pour aller tirer le pénalty. Dans la séance de tir au but, et c'est clairement l'avantage en plus. Alors que Deschamps, il sort Koundé pour faire entrer Disasi.
Ouais.
Alors qu'il reste en plus, il restait quoi, 3 minutes max. Alors que, après, je sais pas, honnêtement, ça se trouve, il n'y avait plus personne en attaquant. De mémoire, je pense qu'il n'y en avait plus. Peut-être, un Guendouzi. Je crois que Guendouzi en plus tire les pénalty à l'OM. Mmh. Je sais pas, tu peux faire entrer un mec comme ça. Mmh. Donc c'est. C'est un petit peu décevant. Après, ça n'a rien changé au fait que potentiellement, voilà, Lloris n'arrête pas et tout. Et puis, surtout, ça laisse le champ. Enfin, tu sens que tu n'as pas tenté de coup.
Tu pouvais tenter plus l'attaque pendant 3 minutes et les mecs qui sont capables de revenir en arrière s'il le faut, quoi.
Ouais, ouais. Puis même. Puis c'était pareil un peu en 2021. Il a pas tenté le coup Maignan. C'est un peu voilà. Si on regardait Lloris et tout, bref. Bon, voilà pour cette séance de tir au but. Justement, bah, on parlait.
Il y a quand même un tournant. Voilà, c'est l'action en début de match sur Lloris.
Laquelle, attends, j'ai plus en tête.
Celle où il reste au sol pendant une bonne dizaine de minutes.
Lloris.
Ouais. Début de match.
Je l'ai pas vu.
Où tu vois clairement que le joueur argentin joue pas le ballon. Il met un gros coup de. Sternum. Il reste au sol.
Ouais.
Et bah, là, pareil, on parlait d'arbitrage.
Ah non, bah, l'arbitrage.
Il n'y a rien eu. Alors qu'il y a une charge.
Paredes en progression. Découpe.
Oui, ça a été embouché pendant tout le match.
Ah ouais, c'est
un miracle qu'il soit sur le. Normalement, il doit sortir plusieurs fois. Ah bah, sur, je crois que c'est lui d'ailleurs.
C'est pareil contre les Pays-Bas. Hein.
Je crois que c'est lui sur le. Genre, justement, sur cette sortie où il met un coup.
Non, mais c'est.
Lloris, on l'a vu au sol. Enfin, ça donne l'impression qu'il avait la côte explosée. Quoi. Enfin,
ah non, mais c'était.
Et bah, pas de jaune. C'est.
Il y a eu beaucoup de trucs, il y a des avantages, et puis il revient pas à la faute. Et puis là, à un moment donné, on doit partir en contre-attaque. Ah, et puis en fait,
les contre-attaques qui ont été bloquées parce qu'ils voulaient siffler. Non, mais enfin, laisse l'avantage.
Et sans doute jaune en plus.
Ouais, enfin, ouais.
Non, mais il y a plein de trucs de l'anti-jeu. Bon, après, voilà, on va pas remettre la faute sur l'arbitrage, évidemment, c'est pas ce qu'on est en train de dire. C'est un constat objectif.
Il y a eu quand même pas mal de. Mais pour les deux côtés, c'est qu'il y a plein de fautes d'arbitrage.
Oui, voilà.
Sur. Quasiment tous les buts, ça peut être litigieux parce que soit il y avait des joueurs en plus sur le terrain, mais des deux côtés, hein, du coup.
Oui, du coup. Ouais.
Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça avec la VAR normalement qui devrait se voir. Enfin, la VAR.
Enfin bref.
Inexistante pendant le match.
On ne l'a pas.
Je crois qu'on l'a vu une fois.
On ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu d'ailleurs.
On a eu
une goal du tournoi.
On a eu deux fois la goal line, je crois.
Une fois, je pense.
Ou une fois. Enfin,
ouais.
C'est.
Ouais, je pense. Mais oui, c'était quand même assez, assez dingue. Bon, ça s'est mal terminé pour nos Bleus. On parlait de Didier Deschamps et de ses coachings. Didier Deschamps arrive en fin de contrat, donc
le
31 décembre. Est-ce que pour vous, il est préférable qu'il prolonge ou est-ce qu'il est préférable qu'il arrête là ? On sait que Le Graët veut continuer avec lui. On sait que Deschamps n'a pas encore pris sa décision, c'est à peu près du 50-50. Et on sait aussi que Deschamps, s'il re-signe, c'est pas pour que 2024, c'est pour 2026. Selon vous, est-ce qu'il doit partir, on doit prendre Zidane et nouveau cycle, etc. Ou est-ce que pour vous, on doit continuer comme ça ? Cédric ?
Il faut changer, je pense.
Ok.
Il faut finir un peu l'aventure et, okay. Et renouveler.
Toi, Faustin, rapidement, puis après on développera.
Je suis un peu mitigé, mais je dirais aussi qu'il faut changer. Parce que comme il y a des nouveaux joueurs qui arrivent, peut-être changer d'entraîneur, ça peut être...
Eh bien, on est d'accord autour de sa table, je suis complètement d'accord. Effectivement, donc en plus, il y a Zidane qui est dispo, quoi. Ça se rate pas, Zidane, j'ai envie de dire. Cédric, tu allais argumenter justement pourquoi toi tu aurais envie de le voir partir potentiellement.
Ah, déjà, je trouve que tu vois le signer jusqu'à 2026, ça fait quand même loin.
Ouais, ça ferait 14 ans en équipe de France.
Et enfin, il y a plein de nouveaux joueurs, jeunes joueurs qui vont arriver, tout ça. Là, on pourrait peut-être avoir un gros décalage de génération. Et puis, vaut mieux peut-être se faire un ringueur, l'euro. L'euro, si ça se passe bien, why not? Mais moi, ce qui m'a déplu quand même là, sur ces derniers temps, c'est qu'il a quand même eu du mal à faire venir des jeunes en équipe de France.
Disons qu'il a été contraint, je pense. Parce qu'il y a eu beaucoup de blessures.
Il y a les blessures, ouais, mais justement, tu vois, les blessures, tu dois l'anticiper quand même. Sur des matchs amicaux ou même sur les...
Oui, mais justement.
C'est là qu'il fallait faire venir un max de joueurs. Et c'est ça le truc. Il y a ces petites histoires aussi dans le vestiaire où pour l'instant, on ne sait pas trop qui a tort, qui a raison. Mais voilà, s'il y a des ruptures avec des joueurs cadres, il y a eu quand même beaucoup d'histoires autour de ça. Pas forcément le cas Benzema, mais
d'autres.
Qui est encore un cas à part.
Oui.
Mais Varane, voilà, on ne sait pas trop réellement... ce qui s'est passé du jour au lendemain pour qu'il passe de titulaire à limite tu restes à l'hôtel, enfin c'est quand même impressionnant. Donc c'est pour ça, je pense qu'il y a ce fossé générationnel qui a peut-être commencé à se faire de plus en plus grand. Et puis voilà, enfin je pense que c'est en termes d'arguments.
Oui, voilà, c'est ça. C'est
pas forcément au final le bilan de la Coupe du Monde. Il est
non, il est pas mauvais quoi.
Il est pas mauvais parce qu'on va en finale.
Mais...
Et qu'au final, on ne perd pas en plus cette Coupe du Monde. C'est un match nul.
Ouais.
C'est ça qui est, comique dans les stades de la FIFA. Hein. C'est considéré comme un match nul.
Exactement. Faustin, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur Deschamps ?
Non, je pense qu'on a tout dit là.
Mais ok, bah, très bien. Moi, je rajouterais juste qu'effectivement, moi, je pense que c'est important, comme tu le disais, de commencer un nouveau cycle. 10 ans, c'est bien, c'est long. Le problème, c'est que voilà, il a pas tout le temps. Il a fait des très bons résultats. Ça, clairement, il faut le dire. Ça a été un sélectionneur hors pair. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a peut-être moyen de faire autrement avec d'autres méthodes. Avec surtout l'occasion de faire Zinedine Zidane. Avec l'occasion de changer de dynamique de groupe, parce que d'un côté, voilà, les quatre que tu as cités, notamment Varane, Griezmann, Giroud, Lloris, ces joueurs-là, il les a pris en 2012 pour les mettre en tant que cadre de l'équipe de France. Et peut-être que c'est mieux que Zidane fasse pareil avec, je sais pas moi, Konaté, Colomboigny, je dis n'importe quoi évidemment, mais que voilà, il y a un nouveau souffle. Et puis surtout, voilà, il y a eu notamment l'échec 2021. Voilà, c'est aussi le sien d'échec. Et effectivement, sur le mondial, il a été vraiment. J'ai eu l'impression qu'il a vraiment été. Pas maître de son sujet. Il a souvent subi, et c'est quand même, je trouve, une des compétitions parmi celles où on a été loin, où on a été le plus de fois miraculé. Il y a ce match contre l'Angleterre où on est dominé. Il y a le Maroc où, pareil, on passe pas loin. Ça a été mis en difficulté. À partir des quarts. Ça a été complètement immaîtrisé selon moi, en tout cas sur des momentum, sur des périodes dans les matchs. Et c'est pour moi peut-être la moins bonne compétition de Didier Deschamps, en tout cas de l'équipe de France de Didier Deschamps. Et donc c'est pour ça que pour moi ce serait bien de renouveler, sans dire que voilà il c'est un mauvais sélectionneur. C'est vraiment plus pour entamer un nouveau cycle, c'est pour que ce soit positif et pour que notre vivier d'excellents joueurs puisse se développer avec de nouvelles méthodes et justement une meilleure peut-être ambiance par rapport aux anciens et aux nouveaux.
Alors que c'est qu'une seule défaite dans tout le tournoi, finalement.
Effectivement, une seule défaite. Un peu comme l'Argentine.
Oui, oui.
Avec une seule défaite.
On parle de changement d'entraîneur, mais il y a aussi une chose à prendre en compte, c'est qu'il faut que la Fédé aussi, ça bouge.
Oh oui, ça va bouger.
Là, il va falloir aussi faire
Il y a un vrai dossier à faire dessus, mais oui.
Il y a beaucoup de choses qui sont reprochées à la Fédé sportivement et extra-sportif.
Oui, non, mais là, il y a pas mal de choses.
Donc pareil, je pense que le renouveau, il passe aussi par des méthodes à ce niveau-là.
Au niveau de la Fédé, parce qu'effectivement, Deschamps a l'avantage d'avoir un bon copain, on va dire, à la tête de la Fédé, sauf que sa tête est mise à prix.
Ouais, ouais.
Pour terminer sur l'équipe de France, on va revenir sur le terrain avec les joueurs de l'équipe de France, tout simplement. Qu'est-ce que vous retenez dans les meilleurs joueurs, selon vous? Si vous deviez me donner un top 3, là, maintenant. Faustin.
Top 3, Griezmann en 1.
Ouais.
Mbappé en 2. Et après, en 3, j'hésite entre Rabiot ou Epame ou Pamecano.
Ok, Cédric.
Je mettrais les jeunes.
Tu mettrais qui, du coup?
Alors après, j'ai pas de préférence, mais vraiment les.
Ce que tu retiens, voilà, c'est la nouvelle génération.
C'est la nouvelle génération, quand même. Okay. Ouais. Après,
donc,
on a quand même
ou Pamecano.
On a Giroud et Mbappé qui ont quand même fait le boulot.
Ouais.
Qui ont été bien soutenus par des Rabiot, des Giroud. Non, Giroud, oui. Il aide Mbappé, mais par Griezmann, enfin c'est. Ouais. Et puis cette faiblesse quand même au niveau de la défense, et puis peut-être falloir aussi.
On termine avec un seul clean sheet.
Ouais, faire un turnover sur les gardiens. Bon,
peut-être.
C'était déjà plus ou moins entamé. Les blessures ont fait que, mais voilà. Je m'inquiète pas trop forcément après sur le remplaçant. Quoi. Il y a même du niveau.
Il y a du haut niveau, voilà. Tu as raison. Moi, pour ma part, effectivement, c'est vrai que les jeunes, ça a été le maître mot. C'est vrai que, meilleur joueur de l'équipe de France, moi, je mettrais quand même Mbappé. Griezmann, oui, ça a été une très bonne compétition de Griezmann. Je suis un peu déçu, j'ai un peu le sentiment amer qu'il n'ait pas marqué. Parce que vraiment, il est à 3 passes D, je crois. Mais c'est dommage quand même pour un mec qui est attaquant d'habitude. Même si là, il est en milieu, c'est un peu dommage, je trouve. Parce que du coup, ça manquait de buts, notamment dans les matchs de l'équipe de France. il aura pu apporter sa patte. Mais sinon, ouais, Mbappé, Tchouaméni, malgré son pénalty raté, c'était pas le meilleur quand même, mais j'ai bien aimé sa personnalité et le fait que bah, il s'écroule pas alors que c'est sa première Coupe du Monde. Il a moins de 15 sélections, il vient d'encaisser un transfert au Real, donc vraie Coupe du Monde de Tchouaméni, sans être non plus fantastique. Et puis, je ne vais pas prendre un titulaire, je vais prendre un très bon remplaçant, qui a été sûrement le meilleur remplaçant, c'est Konaté, qui m'a impressionné et que j'avais déjà trouvé incroyable, notamment en finale de Ligue Champion, et que j'ai trouvé vraiment très bon face à l'Australie, très bon face à la Tunisie, qui était sûrement le meilleur joueur français face à la Tunisie, et qui est rentré dans cette finale avec la niaque et avec l'envie de remplacer Varane, mais c'est-à-dire en le faisant limite oublier Varane. Donc, et Konaté, ouais, c'est l'avenir pour moi, et mention spéciale à lui. Et il y aura une forte concurrence en défense centrale quand on voit donc Varane, Konaté, Upamecano, et on a laissé Kimpembe et Lucas Hernandez sur le banc. Donc il y a une sacrée concurrence pour les années à venir. Sinon, on va quitter un peu l'équipe de France, on va se concentrer sur l'ensemble de la compétition. Cette Coupe du Monde a été particulière, on le sait tous, on ne va pas revenir dessus, sur le volet extra-sportif, avec pas mal de problèmes sur les constructions des stades, sur les droits de l'homme dans le pays, sur l'attribution avec cette potentielle corruption.
En tout cas, ce qu'on peut déjà dire, c'est que malgré tous les problèmes qui ont été évoqués en amont, on aurait pu s'attendre à beaucoup plus d'actions durant cette Coupe du Monde. Et au final, c'est resté quand même calme et il n'y a pas eu de soucis, en tout cas de la part du pays organisateur. On n'a pas eu de gros scandales pendant
la sécurité
pareil, ou même du règlement, enfin des choses comme ça. C'est quand même une chose à souligner aussi par rapport à tout ce qui était un peu incertain, quoi.
Et sinon, pour revenir au terrain, il y avait une particularité, évidemment, ça ne vous a pas échappé, cette Coupe du Monde était en hiver. Donc on appréhendait justement un peu cet aspect-là. Au niveau du bilan global, juste rapidement, est-ce que pour vous ça a été une bonne compétition, une bonne Coupe du Monde? Est-ce que vous avez vibré en dehors de l'équipe de France, qu'il y a des équipes que vous avez bien aimées? Dites-moi.
Il y a eu des choses intéressantes. Après,
Pour une Coupe du Monde en hiver, qu'est-ce qu'on a pensé?
C'est dur de jauger, tu vois, parce qu'au final, la crainte qu'on avait, elle s'est réalisée, c'était les blessures en amont.
Ouais.
Et on en aura sûrement encore après. Après, le niveau était peut-être un petit peu en dessous pour certaines équipes.
Ouais.
Mais on a quand même eu des beaux outsiders, je trouve. Le Maroc, ça passe à pas grand-chose.
Grosse performance.
Cette troisième place, c'est quand même un beau parcours. On a eu quand même des grosses surprises. Hein, l'Allemagne qui perd d'entrée de jeu contre le Japon, le Portugal qui se fait sortir, le Brésil aussi.
C'était fou.
C'est pour ça. Peut-être on a toujours ce petit côté. C'est vrai que les équipes africaines, la zone africaine, elles ont toujours du mal à stopper dans cette compétition. Mais là, le Maroc, on savait que ça montait progressivement. Ils ont bien représenté cette zone. La zone asiatique, on va dire un bilan un peu mitigé.
Il y a du bon et du mauvais.
Et puis la zone européenne, on va dire, on a retrouvé les classiques. Et puis pour la zone américaine et
l'Europe perd son titre de champion du monde depuis 2002. Le dernier champion non européen, c'est le Brésil. En 2002, puisqu'après il y a eu Italie, Espagne, Allemagne et France, et donc l'Argentine qui reprend son titre. Toi, Faustin, qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que t'as vibré? Il y avait les cours quand même pendant, ça a été quand même cool.
C'était sympa, justement. Comme tu disais, Cédric, vu qu'il y avait les équipes favorites qui étaient un peu en dessous de leur niveau habituel, c'est ça qui a permis d'avoir plein de surprises, avec dès le début l'Arabie Saoudite qui bat l'Argentine, tous ces trucs-là. Donc c'était top. Hein. Franchement, c'était une très belle Coupe du Monde.
Effectivement, je partage un peu le même point de vue que vous. C'était quand même une bonne Coupe du Monde. Je sais pas, il y en a qui s'enflamment un peu, par exemple, sur les réseaux, mais. Je ne sais pas si c'est la plus belle Coupe du Monde, mais c'était une bonne Coupe du Monde. Et honnêtement, on pouvait, comme Cédric, un peu s'attendre à pire. Mais voilà, il y a eu quand même de très belles histoires. Il y a toujours ces histoires-là en Coupe du Monde, des exploits, des retournements de situation, des très belles choses, et des matchs à suspense, tout ça. Donc on a eu un peu tout ça. Il y a eu quand même pas mal de 0-0, pas mal de matchs ennuyeux. Mais dans l'ensemble, ça a été quand même une Coupe du Monde plutôt cool au niveau du football et du rectangle vert. Sinon, par rapport justement, pour terminer sur ce qui s'est passé au niveau du terrain, ça a été quoi vos sélections coup de cœur que vous avez bien aimées dans les surprises qu'il y a pu y avoir, et après, on fera vos joueurs. Cédric, pour commencer.
Moi, je dirais le Maroc.
Le Maroc,
en gros. Ouais.
Faustin ?
Moi, je dirais le Japon.
Japon ?
Ouais.
Et pas pour ma part. Vous avez des très bons choix, j'aime bien le Maroc, mais je dirais, j'ai bien aimé les États-Unis, mais dans ceux qui sont allés loin, peut-être la Croatie, parce que moi je trouve, enfin je misais rien sur eux en début de compète, et ils ont fait, je trouve, un très bel exploit d'arriver à la troisième place.
Ouais, alors que moi, l'enjeu m'a déplu.
Ah oui, complètement.
Ah ouais, c'est...
Moi aussi. Hein. Mais je trouve la performance complètement folle d'arriver deux fois. Il faut savoir que la Croatie est indépendante depuis... en tout cas, dans la FIFA, je veux dire, en termes de Coupe du Monde.
Oui.
Le pays a disputé 6 Coupes du Monde. Ils ont terminé sur le podium 3 fois. 98, 2018 et 2022. Donc c'est assez exceptionnel. Et sinon, au niveau des joueurs, alors là, ça va peut-être un peu plus intéressant, on aura peut-être des joueurs différents. Quels étaient vos joueurs coup de cœur, que ce soit dans les stars ou même dans les révélations? Faustin.
Moi, j'adore Giroud déjà.
T'adores Giroud.
Pour commencer, ça c'est fait. Après, les Angevins, beaucoup plus.
Oui, bien sûr.
Pas, hein. Sinon, moi j'ai bien aimé aussi le Al-Dawsari. Le joueur de l'Arabie Saoudite,
ouais,
qui est vraiment, il se battait toujours, il est très technique, il court vite, c'est beau à voir jouer.
Ouais, le numéro 10 de l'Arabie Saoudite, Cédric ?
Bah, je dirais un gardien du Maroc et de la Croatie.
Bounou et Livakovic.
Ouais, ça a été quand même des super gardiens.
Ouais.
Je trouve qu'ils méritaient peut-être d'avoir un titre.
Oui.
De meilleur gardien.
Moi, je ne l'aurais pas donné à Martinez.
Ouais. Je l'aurais donné à Bounou, moi, perso.
Ouais, Bounou, ouais.
Enfin, voilà, au-delà de la finale, ok, mais je trouve ça dommage qu'ils ne soient pas récompensés. Ils ont quand même arrêté pas mal de grosses occasions.
Martinez, il en a pris des buts. Hein.
Voilà, c'est ça. C'est...
Très bien. Eh bien, moi, je dirais dans les révélations, Gvardiol, que je trouvais incroyable, le Croate, pour revenir un peu sur la Croatie. Sinon, les Angevins, j'étais très surpris de voir Unai et Boufal à ce niveau-là. Et pour rester sur le Maroc, Amrabat, que j'ai trouvé incroyable au milieu de terrain. Je crois qu'il est dans l'équipe type de la compétition sur pas mal de gens, mais ouais, Amrabat, vrai coup de cœur. Sinon, voilà, on a dit Bounou, etc. Gakpo, le joueur des Pays-Bas, sur plus sur la première partie de tournoi qui a été assez incroyable. Parce que c'est vrai qu'on retient souvent ceux qui sont allés loin, mais il faut penser à ceux qui justement n'ont pas pu aller plus loin, malheureusement. Voilà, l'émission va bientôt toucher à sa fin. Oui, vas-y.
Juste faire un petit point sur mon petit prono. Juste comme ça.
Ah oui, je voulais le faire.
Oui,
juste comme ça.
Oui, donc, que tu payes le champagne, peut-être.
Alors, donc, effectivement, pour qu'on... textualisé. Comme vous en avez sûrement fait, chers auditeurs, on a fait une petite ligue, mon petit prono, entre donc, les joueurs de l'équipe, les chroniqueurs ou anciens chroniqueurs, donc nous trois plus Max et Yann. Effectivement, Faustin est le grand gagnant de cette ligue, mon petit prono. Faustin qui l'a emporté et qui a devancé Yann à la dernière seconde. Grâce à quoi ? Grâce à son pronostic en début de compétition sur le vainqueur. Tu avais pronostiqué l'Argentine et ça t'a mis des points en plus.
80 points.
Donc bravo à toi là-dessus. Yann termine deuxième avec le plus grand nombre de bons pronos et le plus grand nombre de pronos exacts.
La chatte à Dédé, tu l'as dit.
C'est pas vraiment le spécialiste football. Je termine troisième donc avec 13 points derrière Yann. Et puis Cédric avec 5 points d'écart avec moi. Et puis Max qui a vraiment pas été dans son élément avec 557 points. Donc
j'ai tout perdu à partir de la petite finale.
Moi, sur la finale, j'étais provisoirement premier. Ouais. Sur Panquet, il y avait 2-1 sur l'Argentine et j'étais provisoirement premier. Bref, on va se quitter parce que voilà, l'émission touche à sa fin. On va se quitter avec le générique qui démarre en fond. Et puis, on va se retrouver la semaine prochaine. Ce sera la dernière émission de l'année 2022. Et puis, on se retrouvera bah, évidemment juste après pour l'année 2023. On vous laisse avec les plantes vagabondes et on se retrouve la semaine prochaine.
Et à tous sur les ondes de radio.